cours de philosophie politique par le père Philippe à Saint-Joseph, le 10 décembre 85.
Continuons quelques remarques sur Marx en me servant de l'étude de M. de Montléon, que je crois au point de vue philosophique, et surtout le souci qu'il a, qui est un peu le souci que nous avons, c'est-à-dire d'essayer de montrer le point de vue d'Aristote et le point de vue de Marx. Donc, n'hésitez pas de lire ce petit livre attentivement. Il n'est pas difficile, mais il est intelligent. Alors, ça demande un peu d'attention. Et je crois que c'est intéressant, la manière dont il aborde le problème, c'est pour ça que je le vois avec vous, pour voir que de fait, il y a chez Marx une intention de réalisme, comme nous l'avions vu chez John Locke, comme elle existe chez Occam. Tous ceux qui reviennent à Aristote reviennent avec une intention de réalisme. Très intéressant de voir comment cette intention, qui est d'ordre moral, ne suffit pas. On peut avoir d'excellentes intentions, ça peut très bien se faire, et puis qu'on n'arrive pas. La philosophie, c'est une question d'intelligence, pas une question d'intention. La morale, c'est l'intention, mais c'est l'intelligence. Alors, où on tombe dans la logique, Occam, d'une chute. Ramener Aristote à la logique, ce n'est pas Aristote. C'est oublier la seigneurie de la métaphysique et ne regarder que l'instrument. Petit serviteur, l'organone. C'est pas pour rien que c'est l'organone, la logique. Petit instrument, très beau, très intelligent, merveilleux. Chez John Locke, le retour à Aristote aboutit à quoi? Suppression des idées innées. Montrer que nous dépendons de la réalité. Réhabilitation des sensations. Mais l'imaginaire n'est pas dompté. Et l'intelligence reste liée aux associations psychologiques, au conditionnement de l'imaginaire. Chez Marx, un désir de dépasser l'idéologie hegélienne. Idéologie perverse, bourgeoise. Et revenir à la réalité, au fait économique. Le fait économique, pour lui, c'est la réalité. C'est là où il est ému, parce que c'est là où on voit les plus grandes injustices. Il a bon cœur. Point de départ. Il a une bonne intention morale. C'est ça qu'on dira qu'il y a certaines éthiques marxistes. C'est dangereux que Marx ait eu une certaine morale, d'accord, tout homme a une morale. Mais la dialectique marxiste n'est pas morale. Distinguons bien les deux. L'intention de Marx est bonne, supprimer les injustices. Mais supprimer les injustices en créant un système nouveau de révolution permanente contre l'adversaire, le capitalisme. Et en faisant ça, il idéalise. Et il ne touche plus le point de vue réel. Et en idéalisant, le point de vue éthique disparaît. Il retombe dans un autre aspect bourgeois. Parce que je crois que toute idéalisation, c'est un primat de l'idée, et ce n'est pas le réalisme profond. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment il est tombé, à cause de quel a priori est-il arrivé à cela. Vous pourriez faire la même chose pour Occam, pour John Locke et pour Marx. C'est quand même très intéressant de mettre les trois ensemble. Les trois ont un retour vers Aristote, c'est net. Il pourrait en voir d'autres, mais ces trois sont très nets. Hein. Ils ont une bonne intention. Ils sont aristotéliciens de cœur. C'est déjà quelque chose. Ils sont aristotéliciens de cœur. Ils ne sont pas aristotéliciens du nous. Le nous n'est pas converti. Le nous, l'intelligence, reste en arrêt. Alors, à cause de certains a priori affectifs. Alors, quels sont ces a priori affectifs qui empêchent Occam de redécouvrir la métaphysique? Quels sont les a priori affectifs qui empêchent John Locke de découvrir la métaphysique? Quel est l'a priori affectif qui empêche Marx de découvrir le point de vue métaphysique? Ce sont des a priori affectifs, forcément, puisque l'intention est là, elle est bonne. En me mettant à l'école d'Aristote, je devrais aboutir à ça. Il y a nécessairement quelque chose, un obstacle qui arrête. Alors, je crois que c'est ça que Montléon essaie de comprendre. De comprendre que de fait, tout en rejetant l'abstraction hegélienne, la méthode des abstractions, puisque la méthode des abstractions est quelque chose qui empêche d'atteindre le réel et qui fait qu'on regarde ce que l'intelligence a formé au-dedans d'elle-même, qu'elle a produit au-dedans d'elle-même, et on s'arrête à cela. Ça, c'est le danger de l'abstraction. Parce que l'abstraction aboutit à un fruit, à une idée. Les idées naissent grâce à l'abstraction. Mais les idées sont pour connaître la réalité. Comment se fait-il qu'il y a un détournement des idées. À la place de les regarder comme un moyen d'atteindre le réel, je les considère pour elles-mêmes. Et c'est vrai, c'est le propre de l'idéologie, c'est de considérer les idées pour elles-mêmes, comme des idoles, comme quelque chose qui vient de l'homme, que l'homme a créé, a réalisé, qui doit être normalement quelque chose qui me conduit vers la réalité, et cependant ça devient un obstacle. Alors c'est pour ça que ce petit passage dans l'étude sur Marx me semble très important, c'est de voir les catégories économiques. En faisant un parallélisme entre les catégories aristotéliciennes et les catégories économiques. Aristote étudie l'homme. Et ça, j'en ai la certitude, cause des catégories. Les catégories d'Aristote ne regardent que l'homme. Et les catégories d'Aristote, c'est le seuil de toute sa philosophie. C'est sa propédeutique. Si on faisait une propédeutique aristotélicienne, on ferait un an sur les catégories d'Aristote. Ce serait très intéressant. C'est ce qu'il faudrait faire. Avec un peu de recul, on arrivera peut-être à faire ça. Un an plongé dans les catégories d'Aristote. Et regardez tous les autres philosophes qui ont des catégories. Les catégories kantiennes, les catégories de Marx. Voir la place des catégories. Les catégories peuvent être nos a priori. Quels sont les meubles qui peuplent votre maison? Les catégories. Quels sont les meubles? Alors, ces meubles viennent-ils de l'expérience ou tombent-ils du ciel? Catégorie kantienne. Catégorie aristotélicienne. C'est ça les catégories. Nous avons tous les catégories. Essayez de faire un examen, un désert pour la philosophie où vous étudierez vos catégories philosophiques. Mettez-les sur papier. Et alors à ce moment-là, on pourra faire une psychanalyse de vos catégories et d'étudier vos catégories philosophiques. Nous en avons tous de catégories. Ça, c'est un très, très intéressant. La place des catégories, c'est quelque chose de capital. On pourrait relever les catégories de la phénoménologie. Celle de Husserl. Ce serait très intéressant. On essaierait de comprendre quelles sont ces catégories. Vous voyez, quand vous étudiez un philosophe, posez-vous la question, quelles sont ces catégories? Vous ne les découvrirez pas tout de suite. Mais je crois que c'est très important. Quelles sont les catégories, c'est-à-dire par où il rejoint le réel? Les catégories, c'est ça, c'est rejoindre le réel. Quelles sont les déterminations, l'aspect quantitatif par où j'atteins le réel? Donc, pour Marx, nous avons à abstraire ces catégories qui sont vraiment au fond des choses, derrière les apparences, et nous avons à construire le réel dans la pensée en montrant comment ces catégories s'organisent et dépendent les unes des autres. L'ordre qui existe dans ces catégories. Nous avons aussi à les reconnaître, chacune dans leur détermination. Par exemple, comment la production détermine-t-elle l'échange dans la société et la vie économique? Elle est le principe déterminant de l'échange. La vie d'échange, la vie de marché, dépend en réalité, à titre de catégorie fondamentale, du travail lié à la production. Qu'est-ce qu'est la catégorie fondamentale? Quelle est la catégorie fondamentale chez Aristote? La substance. Quelle est la catégorie fondamentale de Marx? Vous voyez, le procédé d'analyse, c'est très intéressant ça, c'est le procédé d'analyse pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y a comme fondement de toute sa pensée. Tout l'aristotélisme, radicalement et fondamentalement, dépend de la substance. Et Aristote ne le cache pas, puisque dans ses catégories, substance première, substance seconde. Cela ne veut pas dire que toute sa pensée se ramène à la substance. Nous le verrons. Mais c'est fondamental. Les catégories dénotent ce qu'il y a de fondamental et de premier dans l'ordre génétique. C'est de l'ordre quantitatif. Saint Thomas nous dit que nous pensons tout par mode de quidité. Donc, c'est quand je dis quantitatif, c'est-à-dire ce qu'il y a de premier dans l'ordre génétique de sa pensée. Après avoir reconnu ces catégories dans ce qu'elles sont essentiellement, nous aurons à les organiser, à voir comment elles s'arrangent les unes avec les autres et comment elles constituent un système. Ce système doit permettre de reconstruire dans notre esprit cet ensemble tel qu'il est donné dans la réalité. Nous devons le reconstituer et de façon parallèle à ce qu'il est dans la réalité. Il y a bien une reconstruction faite par l'esprit, mais cette construction n'est pas du tout une construction idéaliste qui serait l'origine du réel. C'est une reconstruction de manière à ce que nous ayons dans notre esprit un système de catégories qui reflète ce que ces catégories sont, la façon dont elles sont connexes entre elles, dont elles se déterminent où sont déterminées les unes par les autres dans le réel. C'est évident que s'il y a plusieurs catégories, il y a un ordre. Et comment ces catégories s'organisent-elles? Quel est le principe d'organisation de ces catégories? Pour Aristote, c'est net. La catégorie fondamentale et première, c'est l'ousia. Comment s'organisent-elles ces catégories par rapport à l'ousia? Toutes les catégories s'organisent par rapport à l'usine. La quantité relative à la substance. La qualité relative à la substance. La relation relative à la substance. Alors, pour Marx, quel est le principe d'organisation? Après tout, qu'avons-nous à reprocher à ce système, à cette vision de Marx? Le problème pour nous, La question que nous devons nous poser, c'est de savoir comment les catégories que nous avons ainsi découvertes, dans le fond des choses, par-dessous les apparences, dans l'essentiel de la réalité, déterminent leur sujet, c'est-à-dire la société, les hommes qui vivent en société, les hommes reliés dans l'économie. La société, c'est les relations économiques. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces relations déterminent leur sujet. Homo economicus. C'est pas l'homme tout court, c'est l'homme lié à ce tissu économique. Comme le sujet réel est la réalité sociale, nous devons nous demander comment, pour Marx, ces déterminations exercent leur puissance sur le sujet qui est l'homme vivant dans la réalité sociale. Et important de bien saisir quel est le réel pour lui. Pour y répondre, prenons un exemple concret en voyant comment Marx définit le capitaliste. Sujet qui possède cette détermination économique d'être capitaliste. Et comment ce sujet se trouve placé sous cette détermination. C'est très juste. Le monde se divise en deux. Le capitalisme, le communisme. Donc c'est bien le réel le plus profond. Alors, face au communisme qu'il va élaborer, qu'il va susciter, il y a le capitaliste. Le capitaliste, ce n'est pas lui qui l'a fait. Le capitalisme, c'est le donné initial. Il faut détruire. Il faut détruire le capitalisme pour que le communisme puisse s'ériger, pour que le réel recréé par Marx, puisse tout prendre. Et ce réel ne peut exister et s'organiser que s'il est tout. Alors, c'est dans le Capital, le capitaliste, c'est cité, n'a aucune valeur historique, aucun droit historique à la vie, aucune raison d'être sociale, qu'autant qu'il fonctionne comme capital personnifié. Ce n'est qu'à ce titre que la nécessité transitoire de sa propre existence est impliquée dans la nécessité transitoire du mode de production capitaliste. J'espère que vous comprenez comment ça s'organise. Il faut essayer de comprendre ce qu'est cette réalité, le capitaliste. Le but déterminant de son activité n'est donc ni la valeur d'usage, ni la jouissance. La valeur d'usage, c'est-à-dire l'usage pour lequel les biens sont faits, n'est pas ce qui intéresse le capitaliste, mais bien la valeur d'échange et son accroissement continu. Voilà ce qui finalise le capitaliste. Voilà ce qui lui donne son sens. Voilà ce qui lui donne sa réalité. La valeur d'échange et son accroissement continu. C'est explicite, c'est lui qui dit ça dans le Capital. Ce que le capitaliste veut, c'est accroître toujours son capital par le moyen d'échange. Donc une croissance continue. Et vous êtes en face d'un être qui veut cette croissance continue. Agent fanatique de l'accumulation. Il force les hommes, sans merci ni trêve, à produire pour produire. Et les pousse ainsi instinctivement à développer les puissances productrices et les conditions matérielles qui seules peuvent former la base d'une société nouvelle et supérieure. Le capitaliste n'est respectable qu'autant qu'il est le capital fait homme, personnifié. Oui, la manière dont il voit que le capitalisme absorbe l'homme, c'est ça qui est très intéressant dans cette projection. Parce qu'évidemment, ce capitaliste tel qu'il le voit n'a jamais existé que dans la pensée de Marx. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a eu des injustices, c'est bien évident. Des monstruosités, c'est bien évident. il essaie de les formaliser dans sa, dans sa manière, et c'est là où on voit ce que c'est que ces catégories, pour essayer de voir que le capitaliste, c'est la production pour la production. Il y a un élément vrai, c'est évident, il y a un élément vrai. C'est la production pour la production. Et cette production pour la production, c'est l'homme. Le capitaliste n'est respectable qu'autant qu'il est le capital fait homme. C'est l'homme qu'on respecte et c'est le capitaliste qu'on attaque. Mais il faut bien comprendre que comme le capitaliste est fait homme, il faut attaquer l'homme capitaliste. Et on ne peut plus distinguer les deux. Sa volonté et sa conscience ne réfléchissant que les besoins du capital qu'il représente dans sa consommation personnelle, il ne saurait voir qu'une sorte de vol d'emprunt au moins fait à l'accumulation. Le capitaliste, alors ici c'est M. de Montléon qui réfléchit, le capitaliste est bien obligé de manger et de s'habiller, par conséquent, de consommer, et donc de retenir pour sa consommation personnelle une richesse qui ne peut plus verser dans l'accroissement pur, dans l'augmentation et dans l'accumulation. C'est sûr, il doit consommer. Bien qu'il n'a qu'un seul désir, c'est d'accumuler. Oui, l'homme et le capitaliste. Le duel entre les deux, en tant qu'homme il mange, en tant que capitaliste il accumule. C'est vrai, et c'est dit. Sa volonté, sa conscience ne réfléchissant que les besoins du capital qu'il représente, dans sa consommation personnelle, il ne saurait voir qu'une sorte de vol, c'est Marx qui dit ça, d'emprunt au moins fait à l'accumulation. Si vous mangez, vous diminuez l'accumulation. C'est bien évident. Vous accumulez des pommes dans votre cave et vous en mangez tous les jours un tout petit peu. Vous faites un vol à l'accumulation. C'est une rapine. Si l'accumulation devient votre dieu, c'est une rapine. Et vous avez mauvaise conscience. Le capitaliste ne devrait plus manger. Si le capital fait homme, puisque c'est l'accumulation qui prend tout. Alors vous êtes en face d'un progrès idéal qui doit tout prendre, qui doit tout assumer. Un autre texte, toujours dans le Capital. En tant que capitaliste, il n'est que capital personnifié. Son âme et l'âme du capital ne font qu'un. C'est Marx qui dit ça, hein ? Très très joli. C'est très très joli pour saisir ce que sont ces catégories, comment ils mesurent. Donc son âme, le capitaliste, et l'âme du capital ne font qu'un. Or le capital n'a qu'un penchant naturel, qu'un mobile unique. Il tend à s'accroître, à créer une plus-value, à absorber au moyen de sa partie constante les moyens de production. La plus grande masse possible de travail. Tout est ordonné à ça, cette accumulation de la plus-value. Mais cette monstruosité, l'homme est complètement absorbé par ça. C'est une caricature merveilleuse, hein, intelligente. Il faut bien le voir, c'est pour ça que ça prend. Mais c'est une caricature, vous voyez bien, c'est net. C'est la formalisation du capital qui prend tout. Alors ça, c'est très intéressant, parce que là, on voit le regard de Marx sur l'autre. C'est toujours très intéressant de voir l'autre. L'autre sur lequel il s'attaque, c'est le capitaliste. Et ça demeure comme ça. Je vous ai déjà dit cette petite réflexion qui m'avait beaucoup frappé quand le général Davout est allé là-bas appeler pour regarder l'armée. Il est allé avec deux autres, le premier de l'armée de la mer, le premier de l'armée d'air, ils étaient trois, reçus comme des princes tous les soirs au guignol de Moscou pour se détendre. On comprend très bien, parce que c'est nécessaire de faire ça. Alors, reçu vraiment, royalement. Et tous les jours, on leur montrait, dans les différents coins, ce qu'était l'armée soviétique. Et on leur présentait tous les jours une petite carte de l'Europe. Avec les flèches tournées vers l'Europe dite capitaliste. Ce que nous disons l'Europe libre. C'est intéressant, hein, le langage de droite et de gauche. Alors, toutes ces flèches ordonnées vers cette Europe, marquées en rouge. Alors, je crois qu'au bout du troisième jour, le marin n'a plus tenu. Il dit, mais quand même, vous nous recevez comme des amis, nous vous présentez cette carte. Alors, est-ce que nous sommes des ennemis qu'il faut faire disparaître? Ou sommes-nous des amis? La réponse a été immédiate. En tant que capitalistes, nous devons détruire. Et tant qu'on ne vous aura pas détruit, vous serez l'ennemi. Le jour où le capitalisme n'existera plus chez vous, vous serez nos amis. Parce qu'on vous aime. Mais vous êtes des capitalistes, on vous détruit. C'est un dialogue direct, hein, ça va passer par la presse. Dialogue direct de responsable de l'armée. Pour faire comprendre ce que ça représente. C'est très significatif, je crois. Ça, c'est la pensée dialectique. Au fond, on est obligé d'abstraire. On ne peut pas faire autrement. Quand vous mangez, vous abstrayez. Sauf si vous êtes malade. Alors, vous ne rejetez plus rien. Mais on est obligé d'abstraire. Alors, tout dépend où porte l'abstraction. Et ce qui est intéressant, c'est de voir où porte l'abstraction dans une pensée dialectique. Est-ce que la dialectique absorbe l'homme ou la dialectique respecte l'homme? C'est la question que je me pose, moi. Parce que dans le concret, ils font la distinction. Vous êtes des amis, mais en tant que capitaliste, on veut vous détruire. Donc, dans la pratique, ils font la distinction. L'ami, c'est l'homme. Et dans leur dialectique, ils ne font pas la distinction. Puisque la dialectique se veut absolue. Si la dialectique acceptait l'abstraction, elle dirait, mais oui, il y a deux modes économiques. Il y a un mode dit capitaliste, l'autre dit communiste, dit socialiste. Il y a deux modes d'économie. Et nous allons l'emporter. Mais soyons loyaux au niveau économique et respectons l'homme. Si nous ne respectons pas l'homme, c'est que la dialectique se veut tout. Et une dialectique qui est au niveau de la praxis se veut tout. Oui, alors c'est là où la dialectique cache l'abstraction. Et l'abstraction est cependant réel dans la vie. On est bien obligé de faire la distinction. C'est très curieux. Ça, je crois qu'il faut y réfléchir. Et je crois que cette petite étude, à ce point de vue-là, est très intéressante parce qu'elle montre, elle fait apparaître l'abstraction dans la dialectique. La dialectique implique une abstraction puisque c'est une formalisation d'un aspect de la vie de l'homme. Le point de vue vie économique est formalisé d'une manière telle qu'il devient l'absolu. Vous savez, la formalisation a ce privilège de rendre des choses absolues. Blanc, blancheur. Revenez toujours là-dessus. Blanc, blancheur. Blanc, c'est le blanc du mur. Blanc n'a aucune prétention. Blanc, c'est le blanc du mur. Blancheur devient, c'est une formalisation, devient un absolu. Tout ce qui n'est pas la blancheur est rejeté et doit être rejeté. Alors que le blanc du mur accepte autre chose. Il accepte au moins le mur. C'est déjà quelque chose. Tandis qu'au contraire, la blancheur n'accepte plus rien. Alors, c'est la même chose ici, c'est une formalisation économique qui devient telle qu'elle rejette toute autre forme d'économie, parce qu'elle est absolue. Si elle n'était pas absolue, dans une pensée dialectique, elle accepterait. Mais qu'il peut y avoir diverses économies. Il y a eu au cours des âges diverses économies. Si au cours des âges il y a eu diverses économies, pourquoi aujourd'hui on refuse la diversité dans l'économie? On doit accepter. On doit voir laquelle rend l'homme plus heureuse, le blanc du mur. Mais si on formalise l'économie, l'économie apparaît comme un absolu et rejette toute autre forme d'économie. Vous voyez ? Eh bien, ça c'est le type de l'abstraction. Voyez comment ce pauvre capitaliste est. Alors ici, ça c'est du Jacques de Montléon. Il faut songer à certains personnages de Balzac, comme le cousin Ponce ou le père Goriot. Ces sujets sont pris dans une détermination, par exemple celle de père, la formalisation du père. On ne regarde plus l'homme, on ne regarde plus que le père, la paternité. On fait le guignol de la paternité. Très bien, on formalise le père. Ces sujets sont pris dans une détermination, par exemple celle du père. C'est ça la caricature, hein. Mais quand ce n'est qu'une caricature, ça va. On formalise le nez. On formalise la paternité. On formalise le galant. Et puis ainsi de suite, vous voyez, on formalise un aspect et on en fait l'homme absolu. Ces sujets sont pris dans une détermination, par exemple celle du père. Ils sont d'une seule pièce et vont jusqu'au bout, dans la ligne de leur unique prédétermination. C'est très joli de dire la prédétermination, n'est-ce pas? C'est la laïcisation de la prédétermination. Alors ça devient la formalisation complète. Ils ne peuvent pas faire autrement que d'agir conformément à leur détermination qui les subjugue complètement. Ils ne peuvent pas en sortir, il ne leur reste aucune autre possibilité. Par le fait même qu'ils sont sujets de ces déterminations, celles-ci ne laissent en eux rien d'autre, aucune place à autre chose. Vous formalisez l'économie capitaliste, tout l'homme est absorbé. Et vous avez la caricature par le fait même. Mais la caricature, c'est nous qui de l'extérieur le disons, mais pas pour eux. Pour eux, c'est le réel. Et le réel est comme ça. Et je ne peux libérer l'homme qu'en détruisant le capitaliste. Il y a une logique implacable. On ne voit pas comment ils peuvent en sortir du reste. En art, ce procédé, le génie aidant, produira des œuvres puissantes. Le père Goriot, c'est évident. Et ça restera la cause exemplaire de toute paternité qui veut dominer sur toutes les générations successives. Mais c'est un procédé artistique. Je ne dirais même pas que c'est un procédé artistique. Je crois qu'il faut encore distinguer le procédé artistique de la dialectique. Le procédé artistique peut conduire à cela. Mais le père Goriot, ce n'est pas de la dialectique du père. C'est un procédé artistique. Mais des deux côtés, je vois une formalisation. La formalisation de l'art et la formalisation dialectique n'est pas la même. La formalisation artistique respecte tout le temps un sujet, mais fait que la formalisation de la paternité diminue le sujet. L'homme devient de plus en plus petit, de plus en plus, il se restreint. On voit très bien, et c'est la paternité qui prend tout. L'unique souci, l'avare. C'est l'avarice qui prend tout. Et l'homme diminue, mais l'homme reste. Dans toute œuvre d'art, l'homme reste. Tandis que dans la dialectique, qui est bien un procédé analogue, je veux bien, comme toute formalisation, dans la dialectique, nécessairement le sujet est complètement absorbé. C'est là la différence. Hein. Donc, En art, ce procédé, le génie aidant, produira des œuvres puissantes. Mais c'est un procédé artistique qu'il est aberrant de transposer dans la vie réelle, dans la vie sociale d'homme, en chair et en os. Alors, je dirais plus qu'un procédé artistique, c'est un procédé dialectique. Et ce n'est pas la même chose. L'artiste n'est pas un dialecticien. L'artiste formalise quelque chose qu'il a saisi. Mais cette formalisation n'aurait plus aucun intérêt si, justement, l'homme disparaissait. Ceci est tout à fait fondamental dans la conception scientifique, philosophique, que Marx nous donne des choses. Ici, j'ai pris l'exemple très particulier du capitaliste, parce qu'on voit nettement la détermination, c'est une projection. Marx n'étant pas capitaliste, la formalisation est beaucoup plus forte pour le capitalisme que pour le communisme. Pour le communisme, il n'ira jamais jusqu'au bout. C'est ça qui est très curieux. La formalisation n'ira jamais jusqu'au bout. Et c'est pour ça que les descendants de Marx ne savent pas où ça aboutit. Il y a deux théories. Parce que ce n'est pas formalisé jusqu'au bout. Alors que par rapport au capitalisme, c'est formalisé jusqu'au bout. Parce que c'est l'autre. Marx ne vit pas en capitaliste. Parce qu'il ne vit pas en capitaliste, il peut formaliser pleinement. Mais c'est toujours la même chose. Hein. On trouve l'évangile par derrière. On voit toujours la paille dans l'œil de l'autre. Et la poutre qui est en nous, la voit pas. En fait, l'application entre le capitalisme et le communisme. C'est exactement ça. C'est que quand on vit quelque chose, qu'on essaie de le vivre, on ne peut pas le formaliser totalement. On est dedans. Tandis que quand on le regarde chez l'autre, on peut le formaliser complètement. Marx a formalisé parfaitement ce que c'était que le capitaliste. Et c'est dans cette formalisation du capitaliste que je dois comprendre l'idéalisme qui est chez lui. Parce que le socialisme, le communisme, n'existe que pour détruire le capitalisme. Donc, c'est là où je saisis son système, la fine pointe de son système. La finalité du socialisme, la finalité du communisme, c'est très difficile à saisir. On a l'impression que le jour où il n'y aura plus de capitalistes, les socialistes ne sauront plus quoi faire. Ils ne sauront plus quoi faire. Parce qu'ils existent en fonction de l'autre. Vous voyez, c'est toujours les antis. Les antis ne s'existent comme ça. Ils ne peuvent exister que de cette manière-là. Parce que si l'autre disparaît, il n'y a pas de finalité. Alors, ça ne plus quoi. Et c'est pour ça que certains disent le communisme aboutit à quoi? Ils ne savent pas. Ils ne savent plus. Il est là pour détruire le capitalisme. À ça, ils le savent. Et donc, pour comprendre leur formalisation et la formalisation de la pensée politique de Marx, c'est le capitalisme qu'on doit regarder. Ça, je crois que c'est très, très juste. Et que c'est ça qu'on doit regarder en premier lieu. Donc, ceci est tout à fait fondamental dans la conception scientifique que Marx nous donne des choses. Ici, j'ai pris l'exemple particulier du capitalisme parce qu'on voit nettement la détermination. De fait, pour Marx, quelles que soient les déterminations que nous reconnaissons du capitalisme, celle du travail salarié et de toutes les autres déterminations sociales, les sujets humains soumis dans la société à ces déterminations sont entièrement cadenassés, même anéantis. C'est la néantisation du sujet dans ces catégories économiques. Il s'agit d'avoir en effet une science où les choses sont présentées selon un mode de déduction nécessaire, science des choses dont les processus et les développements sont nécessaires. Par exemple, le passage de la société marchande à la société capitaliste, puis le processus qui conduira cette société à la révolution, au marxisme, enfin au communisme, c'est-à-dire à la société sans classe. C'est cela le but. Mais encore une fois, ce but, on sait plus très bien. Donc je crois que ceci, nous saisissons assez bien quand on regarde le capitalisme, on voit assez bien comment l'homme disparaît. L'homme disparaît. Remarquez, dans un libéralisme absolu, dont la caricature est faite par Marx, il y a quelque chose d'analogue. C'est ce que le Saint-Père, dans son encyclique sur le travail, met en pleine lumière, en montrant la conception du travail chez les libéraux, le libéralisme absolu, et chez les capitalistes, chez les libéraux et chez les communistes, dans le marxisme. La conception du travail est regardée pour elle-même, dans son efficacité, et uniquement. C'est même pas le travail. C'est un aspect du travail. Le point de vue de l'efficacité. L'efficacité, regardée pour elle-même, est voulue pour aller toujours plus loin. Et tout est tendu vers cette efficacité, des deux côtés. Il y a un oubli de l'homme. Alors, conséquence pratique de cette vision, nous avons affaire à des déterminations qui, dans leur processus, ne laissent pas de place à la liberté, à l'homme, ni au bon, ni au mauvais vouloir humain. Les catégories obtenues par abstraction sont des catégories qui déterminent d'une façon rigoureuse la réalité sociale et ses processus, données essentielles du marxisme. Cela nous aide à comprendre, par exemple, le prétendu réalisme des classes. Au sens marxiste, les classes sociales sont obtenues par abstraction. Il y a des prolétaires et des capitalistes, la division. Quand je regarde la société, comme la division de Freud, pour y faire exactement le même raisonnement que Freud, la division entre le point de vue du conscient et l'inconscient, le conscient c'est le devoir, l'inconscient c'est la jouissance. Vous divisez l'homme en deux. Vous divisez l'homme en deux, capitaliste et prolétaire. Alors évidemment, le prolétaire, c'est le devoir, le capitaliste, c'est la jouissance, vous comprenez bien. Hein, on voit tout de suite. Non, c'est les deux qui s'opposent. Et on trouverait des divisions analogues. C'est très intéressant, ça, vous voyez, quand on essaie d'étudier un système, de voir quelle est la division fondamentale. Quelle est la division fondamentale? Parce que la division, c'est l'âme de... c'est l'âme de la dialectique. Et la division, c'est le cœur de l'analogie. Alors, vous pouvez là comprendre comment, par la division, vous pouvez toujours étudier n'importe quelle philosophie. Ça, c'est un petit procédé, c'est une clé, ça passe partout. Une fois que vous avez ça, vous saisissez tout de suite. Qu'est-ce qui est l'âme d'une pensée dialectique ? Je vous dis, je prends exprès Freud et Marx. C'est très différent. Mais des deux côtés, vous voyez que l'homme est absorbé par la division. Il n'y a plus d'homme. L'homme n'existe plus. C'est très gênant. Pour le marxisme, c'est encore plus gênant pour le freudisme. Parce que Freud doit guérir l'homme. Et l'homme disparaît sous la catégorie conscient et inconscient. L'homme disparaît complètement. Et c'est la catégorie, c'est la division entre conscient et inconscient qui est dominante, qui explique toute la pensée dialectique de Freud. Et ici, c'est le point de vue prolétaire et capitaliste qui divise. Et en divisant, fait disparaître l'homme. Quand je regarde la société, je vois que ces deux catégories existent, c'est vrai. Mais pour Marx, ce sont des catégories qui chacune enferme complètement les sujets qui leur appartiennent, prolétaires et ou capitalistes, dans une détermination dont ils ne peuvent plus sortir. Ils sont cadenassés, comme il dit, dans ces deux déterminations. Vous êtes capitaliste ou vous êtes prolétaire. Ils sont entièrement déterminés par la classe même à laquelle ils appartiennent. Tout ce que fait le capitaliste dépend du capitaliste. Puisque l'homme est absorbé. Donc, il y a une logique dialectique qui est commandée par le point de vue du capitaliste. Et il y a une logique dialectique qui est commandée par le prolétaire. C'est d'ailleurs ce que fait la grande différence, ce qui fait la grande différence avec les trois ordres de l'Ancien Régime, qui n'étaient pas du tout des classes. Il s'agissait de réunions, de groupements de gens qui n'étaient pas enfermés dans une détermination. Différence entre les classes et la hiérarchie, les classes et les communautés. Une communauté n'est pas une classe, une communauté est finalisée. Une classe, elle est formalisée, cadenassée dans cette forme. La notion de classe au sens marxiste implique que l'homme qui lui appartient soit entièrement déterminé par la classe qui le constitue. C'est la classe qui le mesure. Selon une telle manière de rationaliser le monde social, les réalités que l'on a abstraites sont vraies en tant qu'elles sont abstraites. Il y a quelque chose de vrai, c'est sûr, parce que ça s'est fait à partir d'une abstraction, à partir d'une détermination. Mais ça devient tout à fait faux le jour où cette formalisation devient totale et supprime l'homme. Blanc, blancheur. Alors évidemment, c'est moins dangereux pour blanc et blancheur. C'est beaucoup plus dangereux pour capitaliste et prolétaire. Parce que ça divise l'humanité en deux d'une façon irréductible. Et si vous mettez alors ensuite la dialectique hegélienne à l'intérieur de cela, il faut que le prolétaire qui subit les injustices, qui est l'esclave, et l'esclave c'est le devoir, et le capitaliste qui lui jouit, qui est son propre maître de façon absolue, il faut, selon la dialectique hegélienne, l'opposition entre le maître et l'esclave, que l'esclave prenne la place du maître. Et vous avez tout le système de la dialectique marxiste. Parce que c'est l'esclave qui doit prendre la place du maître.